Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Aucun de ces films, jamais, ne ressemble au précédent. Mais chacun explore les sommets d'un genre. Je reçois un réalisateur habité par une curiosité et un appétit rare qui a commencé sa carrière devant la caméra avec un César du meilleur espoir masculin. C'est Jalil Lespeer, dont le nouveau film, inspiré de la pièce de Feydeau, Le Dindon, est à l'affiche depuis mercredi avec un casting 5 étoiles. Jugé plutôt Danny Boone, Guillaume Gallienne, Alice Paul, Camille Lelouch, Amel Sidla et Laure Calamy. Et ce qui est épatant cet après-midi, eh bien c'est que, allez, on part en balade.
Europe 1.
Avec Jalil Lespeer, bonjour.
Bonjour.
Alors Jalil Lespeer, la pièce de Feydeau, Le Dindon, a été jouée pour la première fois en 1896. En 123 ans, deux guerres, la conquête de l'espace, la montée du féminisme et puis la visibilité revendiquée de tous les profils sexuels, tous les codes de la société française ont implosé. Alors est-ce que la fantaisie et l'audace avec lesquelles Le Dindon traitait les jeux de l'amour et de la séduction en 1896, sont vraiment de toutes les époques, y compris 2019.
Ah oui, je crois, parce que le génie de Feydeau, c'est justement de parler à travers, évidemment, avant tout pour faire rire, mais de griffer comme ça l'âme humaine, les rapports évidemment amoureux, l'adultère, le mensonge, les petites trahisons du quotidien, et ma foi, l'humain restant l'humain... Même plus d'un siècle après, ça reste toujours d'actualité.
Alors, les intrigues de Feydeau, effectivement, elles sont intemporelles. Mais vous avez préféré, Jalil, camper cette adaptation cinématographique dans la France d'avant mai 68. La France du général, juste avant mai 68. Plutôt que dans celle de 2019. Pour quelle raison?
En fait, je cherchais, dans un premier temps, à sortir, disons, Feydeau un peu du théâtre... des clichés qu'on pouvait avoir sur aussi son époque et le ramener les personnages de Feydeau et sa mécanique au plus proche de notre réalité à nous aujourd'hui et pour j'aime pas trop l'expression le dépoussiérer, mais disons en tout cas pour le ramener à quelque chose qui me parlait plus, j'avais l'impression que je pouvais m'en rapprocher le transposant dans les années 60 plutôt qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a les réseaux sociaux, les téléphones, qui sont finalement qu'une enveloppe, qui font que les choses changent, mais fondamentalement les rapports humains ne changent pas. Mais là c'était compliqué pour la mécanique. Donc les années 60, ça me semble être la bonne période.
Juste avant la charnière.
Juste avant la charnière. Et puis aussi parce que dans les années 60, c'est quand même aussi l'émancipation de la femme. Et que j'avais envie un peu de moderniser les personnages féminins chez Feydeau. Qu'on se les approprie davantage, qu'on s'en proche d'elles en faisant des femmes modernes.
Alors, Danny Boone a été le premier acteur casté sur ce film. Mais l'aventure, en réalité, elle a démarré aux côtés de Guillaume Gallienne à un moment où ni vous ni lui ne saviez qu'il rejoindrait le casting du film, n'est-ce pas?
Absolument. Déjà, elle a
c'est
commencé.
Étonnant, ça.
Ouais, je savais même pas qu'il allait. En fait, il a coécrit donc avec moi l'adaptation. Et je l'ai appelé. Bon, c'est un ami. On a travaillé ensemble déjà sur Yves Saint Laurent.
Ouais.
Il m'a fait un magnifique Pierre Berger. Et comme c'est un très bon camarade, je l'appelle en lui disant peut-être connais-tu quelqu'un pour adapter une pièce de Feydeau, un bon scénariste qui connaisse bien le théâtre, parce que voilà, ça m'intéresse. Je voudrais voir si c'est possible. Et il me dit bah moi. Et du coup, bon, Guillaume est quelqu'un de très, très occupé, donc j'étais flatté, heureux qu'il me rejoigne dans cette aventure. Et c'est vrai qu'il voulait faire une pause, il n'avait plus du tout envie de jouer, en tout cas pour un an. Et au bout de 3-4 semaines d'écriture, il me dit « Écoute, on a un gros problème. » Au téléphone, j'ai dit « Merde, il va me planter, qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « Tu sais que je l'ai joué 150 fois.
» À la Comédie Française.
À la Comédie Française. Moi, je ne le savais pas. Parce que j'avais vu la captation, mais sans lui, parce qu'il était en alternance. Et il me dit, voilà, j'ai terriblement envie de jouer Pontagnac. Et le duo, d'un coup, Danny Boone, Guillaume Gallienne, était complètement évident. Déjà, c'était la première fois qu'ils allaient jouer ensemble, mais ils avaient beaucoup de respect l'un pour l'autre, beaucoup d'envie aussi à l'idée de travailler ensemble. Donc voilà, c'était une évidence. Puis il y a un Auguste et un Blanc qui fonctionnent évidemment tout de suite.
Alors, vous avez donc travaillé tout un été avec Guillaume Gallienne sur la réécriture de cette pièce de Feydeau pour le cinéma, en basculant, on l'a dit, l'intrigue dans les années 60. Ça doit être une période aussi euphorisante que mystérieuse, parce qu'on a en tête très précisément un film qui n'existe pas encore. Tout est possible.
Oui, c'est un train dans la nuit, comme dit Truffaut, un film. Et c'est vraiment ça, oui, on se lance. Déjà, en fait, je ne savais pas au départ si j'allais pouvoir adapter Phédo, parce que la pièce fait 3h20. Donc, c'était hors de question pour moi de faire une comédie au cinéma de 3h20.
Et vous l'avez ramené à moins d'une heure 30.
Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, il y a eu une première étape de travail qui était la suivante, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut enlever pour déthéâtraliser, et surtout en conservant la force et mécanique, et puis même des personnages et de la drôlerie, de l'intelligence de l'écriture de Phédo, sans tout déstabiliser. Et on a travaillé tout un été, et à la fin de l'été, on a organisé...
Loin de Paris ou pas ? Vous avez pris
loin
de
Paris,
pour
moi,
ça
et puis, on n'était pas dans le même lieu, j'étais en vacances, lui aussi, et donc, en vacances studieuses, comme vous voyez, et on s'envoyait par mail nos corrections.
Ah oui.
Et en septembre, on a organisé une lecture avec des comédiens de théâtre, et on a chronométré avec une script, et puis on s'est dit, tiens, on a un texte d'une heure trente, équilibré, on peut faire un film. Et c'est cette version que j'ai envoyée à Dany.
Alors, Jalil Lesper, pour ce dindon, porté au cinéma, vous avez donc constitué, comme au théâtre, une sorte de troupe, mais faite de stars, une troupe que vous avez fait répéter pendant 3 semaines en amont du tournage.
Ouais.
Ça se fait jamais au cinéma, ça ?
Non, malheureusement, ça se fait peu. Enfin, malheureusement, il y a des gens qui détestent répéter et ça dépend ce qu'on recherche. Mais là, pour Phédo, c'était impossible de travailler autrement parce que c'est trop précis. Donc, je voulais qu'ils se connaissent, constituer une sorte de famille aussi.
Ouais.
Parce qu'ils viennent tous d'horizons différents. Ils n'ont pas les mêmes âges. Enfin, voilà. Donc, il fallait constituer vraiment une famille de travail. Et c'est ce qui s'est passé pendant, en effet, 15 jours, 3 semaines. On a beaucoup travaillé. J'ai été évidemment soutenu par mes deux acteurs principaux, Dany et Guillaume, qui ont donné le là. Et c'est vrai que c'est un peu nouveau pour beaucoup de devoir répéter pour un film. Donc c'est un grand luxe. C'est une chose qu'on faisait avant, mais qu'on fait de moins en moins.
Ah oui, ça se faisait dans le temps, ça.
Oui, bien sûr.
Alors tout ça, ça nous donne un film avec l'addition des talents très forts de l'affiche qu'on n'a pas cité à l'instant, mais je le rappelle, Alice Paul, Camille Lelouch, Ahmed Silla, Laure Calamy, et puis avec les décors designés, 60 de véritables appartements bourgeois dans lesquels vous avez tourné. Ça aussi, c'est rare. Souvent, on tourne dans des décors fabriqués, n'est-ce pas, pour le cinéma. Ça donne un film qui a le parfum de ces comédies cultes de la fin des années 60 avec De Funès, par exemple, comme Oscar, comme Pouic-Pouic.
Oui, absolument.
C'est ce que vous recherchiez.
Absolument. Ces deux films étaient dans mes références, au même titre que The Party ou que plus récemment, toujours, Un Dîner de Cons. C'est-à-dire que c'est vraiment, pour moi en tout cas, toutes ces comédies à la française sont les héritières, les petits-enfants de Phédo. Donc c'était un hommage, un clin d'œil évidemment volontaire et appuyé à tout ce cinéma-là avec lequel moi j'ai grandi à la télévision comme beaucoup de Français et qui voient encore ces films, qui passent encore, qui nous font rire et qui nous constituent. Donc au même titre que Phédo, moi c'est ce qui me plaisait avec ce projet, mais un peu comme quand j'aborde l'histoire française à travers la série Versailles.
Qu'on va évoquer tout à l'heure, un genre tellement différent,
différent
trash, rock'n'roll, sulfureuse série
punk,
historique,
là,
punk.
Notre leitmotiv, c'était punk. Et puis, il y a Yves Saint-Laurent. Mais c'est de puiser dans le patrimoine français qui est absolument formidable et sans vergogne, y aller et remettre les choses un peu à son goût. Voilà.
Le Dindon est à l'affiche depuis mercredi et je reçois cet après-midi son réalisateur, Jalil Lesper, qu'on retrouve tout de suite après une très courte pause.
Europe 1. Des confidences, des anecdotes, des rendez-vous chaque week-end avec Isabelle Morizet. Et jusqu'à 16h, elle reçoit l'acteur et le réalisateur du biopic Yves Saint-Laurent, Jalil Lesper. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Le Dindon, nouveau film de Jalil Lesper, librement adapté de la pièce de Phédo, est à l'affiche depuis mercredi avec une troupe carrément virtuose, en tête de laquelle Danny Boone, Guillaume Gallienne et Alice Paul. Et Jalil Lesper est cet après-midi mon invité. Alors cher Jalil, vous avez grandi entre deux mondes, celui de votre père, comédien de théâtre, et de votre mère, avocate. Êtes-vous devenu acteur à cause de votre père ou malgré votre mère?
J'ai voulu épouser un peu les deux carrières, c'était étrange, parce que j'ai fait un court-métrage grâce à mon père, l'année du bac, qui m'a été proposé parce qu'il a eu vent d'un casting pour un court-métrage, et puis c'était l'histoire d'un père, d'un fils, le metteur en scène lui dit « Bah venez, c'est un père qui a des problèmes avec son fils de 17 ans, père, je connais, j'en ai un de 17 ans ». Donc le réalisateur lui a proposé de venir. Moi, j'avais jamais fait de casting, je comptais pas du tout être comédien, mais j'adorais le cinéma. Et on a été ensemble et on a été pris ensemble. Et je trouvais ça génial de faire un film avec son père. Je me disais, d'une part, je vais voir les coulisses d'un tournage et puis je vais avoir un objet qui restera et que je serai probablement heureux un jour de montrer à mes enfants, donc à ses petits-enfants. Enfin, voilà, c'est ce que j'aime dans le cinéma, c'est que ça reste. Bon, pour moi, c'était un one-shot, comme on dit ça. C'est vraiment un été. Et puis j'ai commencé à faire du droit. Donc vous voyez, j'ai hésité entre les deux.
Voilà, exactement. Mais alors, je vais creuser un petit peu sur justement les origines, la famille. Votre père, français, né à Oran, j'ai appris qu'il avait refusé de faire la guerre d'Algérie. Est-ce qu'il connaissait déjà votre maman d'origine algéroise à l'époque où on voulait l'enrôler pour faire la guerre ?
Alors, il n'est pas né à Oran. Je ne sais pas d'où vous tenez cette information. Peut-être d'Internet où il y a des fois des erreurs.
On dit tant de choses fausses.
Ouais, pas du tout. Il est né... à Rosny-sous-Bois, et il a grandi dans le nord de la France, c'est les Ch'tis. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est une assez belle histoire d'ailleurs, c'est que mon grand-père était communiste, et ses deux fils étaient évidemment anticolonialistes, et mon grand-père était pompier. Et donc, la seule solution pour échapper à la guerre, à l'époque, c'était rentrer dans les pompiers de Paris. Mon père est rentré dans les pompiers de Paris, et son frère, lui, n'a pas pu rentrer, donc il a été enrôlé. Il est parti faire la guerre d'Algérie, et il a fait toute la guerre d'Algérie en prison, parce qu'il a refusé de prendre les armes. Et au sortir de la guerre d'Algérie, ils ont décidé de s'installer en Algérie, parce qu'il y avait un rêve, une utopie socialiste en Algérie.
Oui.
Et mon père donc, était un pied rouge, c'est-à-dire que c'est l'inverse d'un pied noir, c'est-à-dire qu'il a été en Algérie après la guerre. Et c'est là où il a rencontré
incroyable,
ma maman.
C'est la première fois que j'entends cette formule.
Mmh. Et il s'est sauvé avec elle, parce qu'elle, elle est d'une famille plutôt... lui, il vient d'un milieu très modeste, mais elle est plutôt d'une famille algéroise, intellectuelle. Et ils se sont sauvés à Paris pour se marier en cachette, parce que c'était évidemment extrêmement tabou pour une musulmane d'épouser un non-musulman, un Français de surcroît, et surtout après la guerre d'Algérie. Voilà.
La famille de votre maman, à l'époque, était pro-FLN, et comme votre maman a eu deux frères, je crois savoir, vous allez me dire si c'est vrai, qu'ils ont été condamnés à mort par l'OAS, c'est ça ?
Oui, absolument. Ouais. Il y avait trois oncles, deux condamnés à mort par l'OAS, un qui a fait de la prison en France. Ouais. Ils étaient très engagés.
Une famille très engagée. Alors, votre maman algérienne d'origine kabyle était issue, vous nous l'avez dit, d'une famille intellectuelle. Elle a fait son droit, elle est devenue avocate. En épousant votre père, comédien de théâtre, elle acceptait, au nom de l'amour, j'ai envie de dire, elle acceptait socialement une vie parfois aventureuse. C'est pas évident de vivre avec un comédien de théâtre.
Non.
Pourquoi cet éclat de rire ?
Non, parce que c'est aux antipodes, je dirais, le droit et le théâtre. Tout. Ça fait pas forcément bon ménage, mais je trouve qu'ils s'aiment encore, qu'ils sont encore ensemble, et que mon père joue encore voilà, au théâtre. Il faut aller le voir, d'ailleurs.
Dans quel théâtre, en ce moment, Jalil ?
Au théâtre Darius Milhaud, dans le 19e arrondissement, à Paris.
À Paris.
Voilà. Vous êtes les bienvenus. Allez-y en masse.
Théâtre Darius Milhaud dans le 19e à Paris. Vous avez eu l'occasion de rejouer au cinéma avec votre père, parce que c'est quand même extraordinaire. Vous nous avez confié là, à l'instant, la manière dont il y a eu ce double casting tout à fait fortuit pour vous. Et vous savez, ça me fait penser à ce qui s'est produit pour Sandrine Bonnaire, presque au même âge que le vôtre, 17 ans, quand elle avait accompagné sa sœur qui rêvait de cinéma. Elle avait accompagné un casting organisé par Piala, mais elle, Sandrine, n'avait pas l'intention de tourner.
Oui.
Et c'est ce qui vous est arrivé.
Absolument, oui.
Comment vous avez vécu cette aventure ? Parce que le fait d'être effectivement adoubés tous les deux par Laurent Cantet, pris pour le tournage tous les deux, c'est étonnant.
Oui, c'est formidable. Et puis c'est un film qui est là et qui restera. C'était superbe. Et puis on s'est retrouvés, il y a Xavier Beauvois qui est dans Le Petit Lieutenant, a réuni... et mon père et mon frère, et mon petit frère qui est comédien aussi. Alors c'est très étrange là pour le coup, parce que dans Le Petit Lieutenant, je ne veux pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film encore, mais ça date un peu, donc je meurs dans le film, donc à un moment donné, je suis tué dans le film. Et du coup, j'ai pu assister à mes funérailles, c'est un peu spécial, avec son père. Il y a ma mère qui avait refusé, pour ces raisons-là, de figurer dans la scène, mais voilà, mon frère qui me pleure, c'est formidable, voilà.
Vous avez failli devenir avocat comme votre mère. Et en fait, votre mère se retrouve avec un époux et deux fils comédiens.
Oui, elle est très heureuse. C'est la première. Elle va vous écouter, elle m'envoie tous les podcasts. C'est mon attaché de presse.
Europe 1.
Allez, on fait une pause et on retrouve Jalil Lespère, que je reçois cet après-midi parce que son nouveau film, le cinquième, Le Dindon, à l'affiche avec Guillaume Gallienne, avec Alice Paul, avec Danny Boone, est dans toutes les bonnes salles depuis mercredi. Allez, on fait une pause, on le retrouve tout de suite.
Europe. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. L'invité d'Isabelle Morizet évoquait il y a quelques minutes son premier court-métrage avec son père, l'année du bac. Jalil Lespère se souvient et se raconte jusqu'à 16h sur Europe 1.
Jalil Lespère, vous souvenez-vous parfaitement de la toute première sensation due à une caméra braquée en gros plan sur vous avec un texte à dire?
Oui, parfaitement. Et oui, c'est vrai. Bah, c'est ce fameux court-métrage dont je parlais tout à l'heure. Vraiment, je suis plutôt d'un tempérament réservé et rester une poésie à l'école, c'était un truc impossible pour moi. Mais je me sentis d'un seul coup libre, voilà, comme quelqu'un qui... Et surtout, j'ai une sensation de... Dans cette sensation de liberté, de cette bulle, en fait, parce qu'une scène de cinéma, quand on la tourne, il y a action et coupé. C'est un peu comme un sprint. Il faut tout donner, il faut basculer. Ouais. Soit tu bascules, soit tu vas pas. Et si tu vas pas, c'est pas la peine de faire ce métier. Mais quand tu as envie de basculer, d'un seul coup, ton cerveau se met dans un autre mode. C'est-à-dire, il croit réellement à la situation, comme un enfant qui joue aux cow-boys, aux Indiens. Il y croit, et ben, t'y crois. Et tu es submergé par une émotion qui t'échappe, et c'est assez magique. J'ai adoré cette sensation. Et puis surtout, j'ai eu une espèce d'instinct, une petite voix intérieure qui m'a dit ce que tu es en train de vivre va être important dans ta propre vie. Ouais. Je me souviens qu'à couper, je me suis tourné justement vers mon père, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, c'est marrant, j'ai cette sensation que c'est important ce moment.
Et lui aussi a dû être surpris. Lui,
j'en ai parlé des années plus tard, il s'en souvient pas du tout.
C'est pas vrai.
donc voilà, mais en tout cas, moi j'ai eu cette sensation vraiment très forte. C'était une espèce de... c'était très étrange.
Parce que certains brûlent d'être acteurs, c'était pas votre cas, Jalil Lespère.
Non.
Vous, en fait, vous étiez, on va dire, plutôt globalement amoureux du cinéma, c'est ça?
Absolument. Ouais, j'ai toujours été cinéphile. J'ai grandi à Noisy-le-Grand, juste en face d'un cinéma, j'y allais régulièrement, voir des vrais films, j'aimais pas les dessins animés. J'ai toujours aimé le cinéma, c'est vraiment cette curiosité qui m'a poussé à faire ce casting, parce que la condition d'acteur, je la connaissais ayant vécu ça dans ma propre famille, je la savais difficile. Et puis, surtout, pour la tenir, c'est un sacerdoce, c'est l'histoire d'une vie entière. Donc, je ne savais pas si j'avais cette passion pour ce métier. Et puis, je n'avais pas la passion du texte. Alors, c'est paradoxal, parce que là, je fais le dindon, mais je ne me voyais pas sur des planches, au théâtre... Et pour moi, les deux vont ensemble. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut même progresser comme comédien, ça me paraît important de faire du théâtre, ça me paraît important d'être nourri aussi de grands textes. Voilà. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'ai commencé à réaliser. C'est que je me disais, je ne peux pas errer entre deux films.
On le dira tout à l'heure. Vous avez quand même récolté tout de suite un César du meilleur espoir masculin. Oui. Donc, alors, on continue de dérouler le fil. Vous prenez donc la décision de lâcher les partiels de droit un beau jour, parce que quand même, c'est trop tentant pour tenter une vie d'acteur. Mais il faut d'abord affronter le temps des vaches maigres. Moi, je voudrais savoir comment on se trouve un agent quand on est inconnu.
En fait, j'ai eu beaucoup de chance, parce que si je lâche le droit, c'est parce qu'on me propose des choses. En fait, ce premier court-métrage de Laurent Cantet, déjà c'est une chance inouïe, c'est que je fais un court-métrage et c'est un très grand cinéaste. C'est son deuxième film, son deuxième court-métrage. Et derrière, il va me réemployer deux fois jusqu'à Ressources Humaines.
Qui m'a valu un César.
Mais entre-temps, il se trouve que ce court-métrage fait des festivals, on me remarque, on me propose des rôles. Et puis je les refuse souvent parce que j'ai mes examens, mes partiels. Et puis à un moment donné, je me dis non, mais je ne peux pas continuer comme ça. Et je lâche tout. Après, j'ai du coup assez vite un agent, en fait. Voilà. Et je dois dire que...
Mais c'est un agent qui vous a sollicité, qui vous a repéré?
Oui, parce que c'est souvent... Souvent, il y a des jeunes acteurs qui me disent « Mais comment fait-on pour avoir un agent ?» Et c'est vrai que c'est un peu alambiqué, mais souvent, il faut quand même un peu de matériel pour être remarqué. Et il se trouve que ce matériel, ça a été ce court-métrage, puis d'autres courts-métrages que j'ai faits, où les agents ont pu me remarquer.
Mais il y a quand même une période où vous avez failli tout arrêter.
Oui, j'ai travaillé.
Vous aviez un agent et il paraît qu'un beau jour, vous avez déboulé dans son bureau en lui disant c'est fini.
Basta. Oui, j'ai lâché mes études et pendant 3 ans, j'ai fait plein de petits boulots. J'étais pas chez mes parents, donc je devais bosser. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais l'impression de tourner en rond, j'y croyais plus du tout. Et paradoxalement, encore une fois, rattrapé par le destin, c'est à ce moment-là qu'on me propose deux rôles principaux,
oui,
dont Ressources Humaines.
On va dire que la vie est une formidable scénariste, n'est-ce pas ?
Elle
adore ménager ses effets. Alors effectivement, c'est Laurent Cantet en 94 qui vous fait passer votre premier casting pour un court-métrage. C'est Laurent Cantet en 99, c'est ça, 5 ans plus tard, qui vous appelle pour vous donner le premier rôle du film Ressources Humaines, qui va vous valoir le César du meilleur espoir masculin. Il y a des gens comme ça qui vous... Je veux dire, qui vous hisse sur le bateau. Ça existe, ça ?
Bien sûr. Oui, il y a des gens qui vous regardent et qui ont envie de vous filmer. Déjà, c'est... je le comprends, puisque c'est aujourd'hui, très souvent, ça m'arrive d'avoir ce rôle-là.
Oui, justement, mais vous, réalisateur, par exemple, vous êtes fier d'avoir repéré qui depuis maintenant... Allez, vous en êtes à votre 5e film.
Oui.
Donc, depuis à peu près une douzaine d'années que vous réalisez.
J'ai eu la chance, le privilège de je crois, faire son premier film à Vincent McCain, qui est aujourd'hui un acteur qu'on voit beaucoup. C'était aussi intéressant de travailler avec Pierre Niney, parce que quand j'engage Pierre Niney, au départ, je suis obligé d'organiser un shooting photo où je le grime en Yves Saint Laurent pour le montrer aux partenaires qu'ils ne connaissent pas encore. Et je leur dis, vous allez voir, ce mec-là, c'est un petit génie à la Comédie Française.
Quand vous dites les partenaires, c'est-à-dire les distributeurs, les producteurs,
voilà, pour être sûr de,
qui ne croyaient pas donc en Pierre Niney, trop jeune, c'est ça ?
Non, mais je leur avais dit, voilà, moi je pense qu'il faut des figures pas trop connues pour incarner Yves Saint-Laurent, Pierre Berger, parce que c'est des vrais qui sont les stars du film, c'est leur histoire avant tout. Et du coup, j'avais le souhait d'avoir comme ça un casting entre guillemets frais, j'aime pas ce mot-là, mais bon, c'est celui qui me vient. Et de fait, j'avais entendu parler de Pierre, il avait fait un film, un autre qui n'était pas encore sorti, mais ça commençait à savoir.
Il était très très neuf au cinéma.
Il était très très neuf au cinéma, ouais.
Ouais. Et c'est formidable de donner leur chance, donc
La chance, elle se transforme aussi à un moment donné, parce que les gens ont de la grâce et c'est pour ça qu'on a envie de les filmer. Enfin, peut-être pas, c'est pas pour ramener ça à moi, mais en tout cas, quand je suis réalisateur, je me dis pas, tiens, c'est... Je pense que Pierre Niney était Pierre Niney sans moi, mais il se trouve que j'étais là au bon moment pour le choper.
Allez, on retrouve tout de suite Jalil Lespère.
Europe 1. Il est 15h30 et il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Se poursuit avec Isabelle Morizet et son invité, l'acteur et réalisateur Jalil Lespère, qui aime trouver son inspiration dans le patrimoine français.
Ah, l'esprit français, pour parler des jeux de l'amour, Beaumarchais, Feydeau, Guitry. Ben justement, Jalil Lespère a eu la formidable idée d'adapter au cinéma la pièce de Feydeau, Le Dindon, avec une troupe de virtuoses. Danny Boone, Guillaume Gallienne, Alice Paul, Camille Lelouch, Ahmed Silla et Laure Calamy. Ce bijou de comédie est à l'affiche depuis mercredi. Et Jalil Lespère est mon invité. Alors Jalil, vous dites, en tout cas vous avez dit, on peut vivre une vie entière sans faire de vagues, hein. Mais je trouve ça affreux. Vivre, c'est donc faire des vagues.
J'ai dit ça ?
Oui.
Ouais, c'est bien.
C'est bien, hein ?
Ouais, parce que c'est... Non, c'est, ça me surprend, mais... Ouais. Mais je pense qu'il faut oser, dans la vie, se prendre des gadins, il faut oser se challenger. C'est important, c'est, non seulement ça donne du sel, mais surtout ça donne du sens. Il ne faut pas avoir peur de déplaire, il ne faut pas essayer de plaire à tout le monde, d'être flat. Mais on a une partie à jouer jusqu'à preuve du contraire, donc autant bien la jouer à fond.
Alors au début de votre carrière, on vous a catalogué jeune premier fiévreux avec un bon fond. Bon, certains auraient thésaurisé là-dessus, pas vous. Vous avez déchiré le masque et vous êtes passé derrière la caméra pour un premier film sombre et traversé par la colère, intitulé 24 mesures. C'était il y a tout juste 12 ans. Et ceux qui croyaient vous connaître ont découvert sur le tournage un réalisateur très très éloigné de l'acteur jeune premier. En fait, vous êtes plus dans les films que vous réalisez que dans les rôles que vous avez pu incarner jusqu'à présent.
On en parlait précédemment, mais des fois on nous perçoit, on nous met dans des boîtes, dans une étiquette.
On nous envisage, comme disait Gainsbourg.
Voilà. Mais en même temps, l'acteur est forcément, incarne forcément quelque chose qui lui est proche. Donc il y avait une candeur, de jeunesse, une douceur, un truc qui, comme ça, de prime abord, semblait évidente. Mais un être humain n'est pas fait que de ce qui dégage a priori. Donc j'ai envie de chemin de traverse. En tout cas, j'étais pas frustré, mais c'est vrai que j'étais surpris. À chaque fois, on me disait cette candeur, cette douceur. C'était pas moi dans la vie du tout, mais voilà, j'ai accepté le rôle.
Jalil Lespère, vous avez fait l'acteur donc pour Alain René, pour Xavier Beauvois, pour Robert Guédidjian, qui vous a mis face à Michel Bouquet dans Le Promeneur du Champ de Mars. De quoi vous ont-ils nourri, tous ces réalisateurs? Que leur avez-vous peut-être chippé inconsciemment?
Déjà, j'ai une chance formidable, c'est qu'encore aujourd'hui, je joue un peu moins, mais je joue 2-3 fois par an, c'est que je découvre d'autres plateaux, donc d'autres façons de faire, d'autres façons de s'engager dans la création, et ça, je m'en nourris, évidemment. Donc souvent, les plus grands, d'ailleurs, metteurs en scène, je vais rejoindre un peu la théorie du Candide, c'est qu'il y a une certaine candeur, justement, chez eux, une enfance qui est là, parce qu'encore une fois, quand on joue la comédie ou quand on fait des films, on a besoin de croire à nos histoires, un peu comme un enfant qui joue. Ouais. Finalement, c'est que ça. Donc, que ce soit Alain René, Beauvois, Canté, c'est des gens qui sont profondément habités.
Robert Guédiguian.
Guédiguian aussi. Et c'est des gens qui croient réellement ce qu'ils font. Ils essayent de le faire de la meilleure des manières. Et je pense que le spectateur le sent.
Alors, pour votre troisième réalisation, vous avez choisi un sujet sur lequel, en théorie, on ne vous attendait pas du tout. On l'a très rapidement évoqué au travers de Pierre Ninet à l'instant. C'est la vie d'Yves Saint-Laurent. Mmh. Avec, paraît-il, en tête, deux références vraiment inattendues. Amadeus, film qui traite du génie de Mozart à travers Salieri, et Rimbaud.
Oui, et je mettrai une autre référence qui était quand même la plus forte, parce que c'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré Pierre Berger, que je l'ai convaincu quand je l'ai rencontré, avec Martin Eden, qui est un roman sublime de Jack London, que je conseille toujours, et qui m'a beaucoup nourri pour ce film-là. Mais Amadeus, oui, parce que Amadeus, c'était surtout la manière dont est envisagé et rédigé le scénario, et comment la petite histoire raconte la grande histoire. Pour ceux qui se souviennent de ce chef-d'œuvre, Salieri-Mozart, c'est la haine, la jalousie de l'un, qui est un mec absolument brillant, un grand musicien, mais qui n'est pas un génie, qui raconte celui de son rival absolu. Et ça commence avec « J'ai tué Mozart ».
Dont il est, en fait, au travers de sa haine, le plus grand fan.
Admirateur, absolument.
Oui, il est totalement fasciné.
Voilà. Et je me disais que le binôme que constituait Pierre Berger et Yves Saint-Laurent, et c'était un peu Salieri-Mozart, mais à travers l'amour.
À travers l'amour, voilà. Alors, on se souvient tous de la guerre médiatique des deux biopics sur Saint-Laurent, sortis en salle de façon quasi simultanée, en face de votre film avec Pierre Ninet dans le rôle-titre. On nous annonçait celui de Bertrand Bonello avec Gaspard Ulliel dans le rôle de Saint-Laurent. À l'époque, Pierre Berger ne s'est impliqué financièrement dans aucun des deux projets, mais c'est le vôtre qu'il a soutenu, auquel il a donné sa bénédiction. Pourquoi ?
Tout simplement parce que j'ai été le voir, et en fait, quand je vais le voir, il n'y a pas de deuxième projet d'ailleurs. Je vais le voir et je lui raconte, en gros, que je veux faire un film sur leur histoire d'amour, que je trouve que ça mérite un film, en tout cas que moi ça m'inspire, mais que je ne le ferai pas sans son accord, pour la simple et bonne raison que j'avais besoin déjà de la fondation. J'avais besoin de filmer les lieux, de m'en imprégner, de rencontrer les gens, ceux qui restaient du moins. D'ailleurs, c'était une grande famille, la famille Saint-Laurent. Il y a des gens qui ont travaillé leur carrière entière là-bas.
Les robes, les vrais, la haute couture.
Absolument. Et puis j'avais envie aussi d'avoir, de pouvoir lui, non pas l'interviewer comme vous le faites si bien, mais au moins le questionner sur leur histoire, aller y puiser des informations, des choses. Et puis surtout que j'avais besoin en fait de raconter leur histoire, l'histoire de Saint-Laurent à travers leur histoire, parce que pour moi elle est indissociable.
Mais alors en même temps, l'espère, à partir du moment où on entre dans les grâces, je vais dire du parrain, du démiurge, du deus ex machina qui était Pierre Berger, est-ce qu'on est vraiment libre de tourner le film qu'on a envie de tourner ?
Ah oui, complètement. Oui, parce que bon, déjà quand je rencontre Pierre Berger, je sais pas vraiment qui c'est en fait. Je l'ai pas regardé, vous voyez, comme quelqu'un d'aussi important que ça, parce que moi j'avais pas de fascination particulière pour la mode. Et quand je le rencontre, j'y vais vraiment la fleur au fusil. On me dit tu vas voir, il va te dire non. Et puis en fait on parle de Martin Eden justement. C'est-à-dire que je lui dis voilà, moi j'ai un milieu simple et vous aussi, et c'est ça qui me plaît, c'est comment on transforme sa vie, comment on en fait quelque chose à travers non pas la finance, mais à travers la création, la recherche du beau. Et on bascule sur Martin Eden, qui est un roman que j'ai lu ado et qui raconte ça, en gros. Et il me dit, voilà, vous avez tout compris. Donc, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, la fondation vous est ouverte, les lieux, les robes, les dessins.
Pierre Berger disant, vous faites ce que vous voulez, plus que rare. Extraordinaire.
C'est une fausse idée parce que en fait Pierre a été un mécène pour énormément de monde, énormément d'artistes, et c'est quelqu'un qui.
Il ne s'agissait même pas de mécénat puisque il n'a pas participé financièrement, n'est-ce pas ? Mais c'était juste vous donner une bénédiction.
Ouais, mais même plus que ça, parce que pour le coup, c'était très compliqué de tourner à la Fondation, parce que la Fondation, ça fonctionne comme un musée, donc sortir des robes qui sont des pièces uniques, qui n'ont plus de prix, etc. Il n'avait même pas la main dessus, si vous voulez. Lui, il y avait toute une structure qui fonctionnait sans lui, donc c'était une bataille, et il m'appuyait énormément pour obtenir toutes les autorisations. Mais de manière générale, j'ai rencontré quelqu'un qui, alors il aimait pas, mais quand il aimait, il faisait vraiment confiance et c'était quelqu'un qui avait beaucoup de respect pour les artistes et pour leur liberté, justement. Donc, il ne m'a jamais entravé, mais pas le moins du monde, au contraire. Il voulait qu'on dise tout et qu'on cache rien.
Il y a une chose qui m'intrigue. 5 ans se sont écoulés. Berger a rejoint Saint-Laurent, donc il ne reste que la légende. Et puis votre film, c'est une œuvre achevée, aboutie, qui vivra sa vie au fil des rediffusions à la télé ou auprès des cinéphiles. Alors, je voudrais savoir s'il fallait rajouter quelque chose à ce film. Vous savez, un peu comme un peintre qui, soudain, en passant devant une toile, une de ses toiles, s'empare de la palette pour rectifier son tableau. Quelle scène, quel plan, quelle idée peut-être vous rajouteriez ? Est-ce que ça vous arrive de... Vous regardez vos films lorsqu'ils passent à la télé ?
C'est ce que j'allais dire, il faudrait que je le revoie.
Voilà.
En fait, non. Et je ne suis pas le seul, il y a beaucoup de réalisateurs qui ne revoient pas. Une fois qu'ils sont faits, je serais curieux de le revoir dans 10 ans, peut-être. Mais là, aujourd'hui, je ne l'ai pas revu depuis sa sortie, je dirais. Mais oui, on a toujours des regrets sur certaines scènes. Et on voudrait les refaire, les faire mieux. Mais c'est aussi ces coquilles, entre guillemets, qui font leur charme. Je dois dire qu'avec Le Dindon, par exemple, c'est la première fois où je suis heureux de toutes mes scènes. Et j'étais obligé de toutes les réussir de mon point de vue, parce que c'est en continuité.
Il y a une mécanique.
Il y a une mécanique. En fait, tu ne peux pas... Un scénario, il y a plusieurs scènes. On parle d'ellipses. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un jour J à un autre jour, quelques années plus tard, etc. Parce que là, chez Fedo, tout est en temps réel. Donc, tu ne peux pas enlever une scène, en fait, parce qu'elle ne te convient pas. Il faut tout réussir. Et c'est la première fois où j'ai pas de regrets sur une scène.
Le Dindon qui est en salle depuis mercredi. On retrouve tout de suite Chaline Lesper.
Europe 1. 15h42, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, la suite sur Europe 1 avec Isabelle Morizet et son invité. Cet après-midi, c'est Jalil Lesper, le réalisateur du film du biopic Yves Saint-Laurent. Son dernier film, Le Dindon, adapté de la pièce de Fedo, est à l'affiche depuis mercredi.
Jalil Lesper, il y a 10 ans, peut-être dans le feu de la jeunesse, vous déclariez à Libération « Ça me désole, quand je voyage, de voir à quel point, à de rares exceptions près, le cinéma français n'intéresse plus personne. » Vous avez dit ça. Alors aujourd'hui, vous êtes plus mesuré, plus nuancé ou vous affirmez la même chose ?
Je suis plus nuancé.
Vous êtes plus nuancé.
Non, bien sûr, on déclare des fois des grands... On assène des grandes vérités comme ça. Néanmoins, je trouve qu'on a une production large... Extrêmement éclectique et c'est vrai que quand on regarde les chiffres à l'étranger, quand on compare par exemple au cinéma américain et qui est vu par des millions de gens, pour pas dire des milliards à travers le monde, le cinéma français, même s'il existe, même si c'est le deuxième cinéma le plus exporté au monde ou le troisième, il y a l'Inde peut-être devant, et donc on a une énorme chance qu'on ait un tout petit pays quand même comparé à ces immenses pays de cinéma, mais néanmoins c'est vrai que les chiffres sont éloquents, c'est-à-dire que on va faire, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 30 000 entrées en Allemagne, 100 000 en Italie, mais ce n'est pas les mêmes chiffres. Mais c'est très peu, mais là où je suis plus nuancé, c'est que c'est quand même déjà ça, parce que imaginons, on transpose nous le cinéma italien en France, le cinéma anglais, le cinéma même coréen, même si là ça fait 1,6 million, la Palme d'Or sublime,
oui,
Parasite,
oui,
en France, c'est des cas de figure extrêmement rares, on ne voit pas tout le cinéma coréen. Donc malgré tout, on a quand même un cinéma français qui s'exporte davantage, qui s'exporte bien en Europe.
Si on s'en tient à l'Europe, il paraît, vous allez me dire si c'est vrai, il paraît qu'il est plus facile de monter un film chez nous qu'en Espagne,
bien sûr,
ou en Allemagne. Alors on devrait rayonner sur le cinéma européen.
Oui, on a un système extraordinaire qui permet à cette industrie, parce que c'est aussi une industrie, de fonctionner, d'employer des gens, et de créer du contenu, et de créer des films, et donc de pouvoir faire rayonner notre culture française à l'étranger, et en France aussi, exister, à travers nos histoires. Donc ça, c'est extraordinaire. Et ce n'est pas le cas de certains pays d'Europe, pour ne pas dire la plupart, et même avec des cinémas très forts,
oui,
comme le cinéma italien.
Il est presque disparu, n'est-ce pas, qui peine.
Après, en série, par exemple, les Anglais sont extraordinaires, les Scandinaves aussi. Les plateformes permettent, aujourd'hui en tout cas aussi, d'être vues et pour les Français, mais aussi pour les étrangers. Donc ça, je trouve ça génial. Je parlais avec ma voisine la dernière fois qui va très peu au cinéma et qui a un certain âge et qui me disait « Oh, vous savez, j'ai Netflix et j'ai... Alors, je suis des séries turques absolument géniales. Je suis des séries portugaises géniales. » Enfin, voilà. Et ça, je trouve ça formidable. Voilà.
Eh bien, justement, je prends la balle au bon parce que vous parlez séries. Voilà, c'est parfait. On va arrêter un moment de parler cinéma parce que la télé, c'est un support, un vecteur que vous savez utiliser avec brio. Vous l'avez démontré avec la série historique Versailles, série hors norme qui a dépoussiéré le genre, à la fois fidèle et rock'n'roll, punk presque, diffusée sur Canal il y a à peu près 3 ans, c'est vous qui avez mis au point la bible de cette série ambitieuse, en plus d'en réaliser les premiers épisodes.
Oui, j'ai fait le menu, comme qui dirait. J'ai fait ce qu'on appelle Creative Director, dans les grosses séries internationales. C'est-à-dire que j'écrivais pas les scripts.
Ça consiste précisément en quoi?
En fait, je donnais le ton de la série en étant présent et en préparant les premiers épisodes. Et donc, ça donne le là artistique sur tout le reste. Donc, ça veut dire... je constituais le casting, évidemment, les décors, la façon de tourner, les équipes techniques, la musique. Voilà. Donc, c'était une formidable école parce que ça a été, et c'est encore aujourd'hui, je crois, la plus grosse série française jamais produite.
C'est la plus grosse série française jamais produite.
En termes de budget, d'envergure internationale, bien sûr. C'était une coproduction.
Et qui s'exporte très, très bien.
Qui s'est très, très bien exportée, oui, oui. La première saison a été vraiment un énorme succès. Et d'ailleurs, c'était même une série qui était destinée avant tout à l'étranger.
Ah, d'accord. Voilà. Alors, pour cette série historique, baptisée Versailles, vos références étaient savoureuses. Il paraît que c'était Pacino dans Le Parrain, c'était Bowie, c'était Iggy Pop, c'est ça?
Oui, absolument. Oui, pour les acteurs, je leur disais ça. C'était aussi la reine Margot, avant tout.
Oui, bien sûr.
D'un point de vue global. Mais c'est très drôle parce que j'avais des très jeunes acteurs qui correspondaient aux âges réels, d'ailleurs, de Louis XIV et de sa cour quand il décide de s'installer à Versailles. Et je sais pas, son ministre de la guerre à l'époque avait 23 ans, quoi, vous imaginez. Donc c'était des gamins. Et donc j'avais des gamins sur le plateau, des Anglais. Et le rôle principal, je me souviendrai très... C'est là où j'ai pris un coup de vieux. Je lui dis, écoute, George, tu vois, ton personnage, c'est vraiment Al Pacino dans Le Parrain 2. Et il me dit, oh, ok, cool, mais j'ai jamais vu Le Parrain.
Oh mon Dieu!
Et donc voilà, j'ai eu la même réaction que vous. Du coup, il a découvert Le Parrain, et c'est vrai que sa référence, c'était Harry Potter.
Oui, il y a une cinéphilie de base quand même quand on est acteur, non?
Oui, mais pourtant, c'est des acteurs formidables qui étudient Shakespeare et tout, mais c'est juste, voilà.
Ils avaient zappé Le Parrain.
La génération n'était plus la même.
Incroyable. Alors, Jalil l'espère. Tourner pour Netflix, ça vous plairait, bien sûr.
C'est ce que je fais en ce moment.
Ah, mais alors racontez-nous!
Mais je ne peux pas parce que c'est confidentiel. Mais
Incroyable. Je
tourne un documentaire pour Netflix.
Vous voilà. Tournez un documentaire pour Netflix.
Voilà.
D'accord. Et je n'en saurai pas davantage.
Nope.
Bon, c'est parfait. Ça me permettra de vous réinviter très bientôt. Mais pour l'instant, la conversation n'est pas terminée parce que j'ai encore plein de questions à vous poser sur Le Dindon qui est en salle depuis mercredi. À tout de suite.
Chaque week-end, de 15h à 16h sur Europe 1, Isabelle Morizet retrace le parcours de son invité. Cet après-midi, c'est l'acteur et réalisateur Jalil l'Espert à qui l'on doit le biopic Yves Saint Laurent ou encore la série Versailles. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, suite et fin.
Jalil l'Espert, votre nouveau film, Le Dindon, est donc depuis mercredi à l'affiche avec Danny Boone, Guillaume Gall, Annalise Paul, Camille Lelouch, Ahmed Silla, Laure Calamy. Et ce qui est vraiment frappant dans votre filmographie de réalisateur, c'est que aucun de vos 5 films ne ressemble, même de très loin, à un précédent. Vous changez chaque fois totalement de registre, de propos, d'exercice. Comment vous expliquez cette volonté de ne pas avoir de fil rouge? Mais du tout, jamais.
Je ne sais pas, j'arrive pas à me l'expliquer. Moi, enfin, franchement, je crois que la curiosité, peut-être le fait d'avoir été acteur aussi, et de l'être encore d'ailleurs, et du coup, je vous dis d'avoir rencontré et travaillé sur des projets vraiment différents avec des réalisateurs différents. Curiosité aussi de spectateur, de se faire plaisir. Je suis le premier spectateur des films que je tourne. Et puis j'ai plein d'envie. Et puis souvent, je 6 mois avant, je ne sais pas trop sur quoi je vais partir. Vous savez, faire un film, c'est un peu comme faire une fête à la maison. Il faut qu'il y ait des invités. Donc des fois, il y a des thèmes.
Ouais.
De fait, qui plaisent plus ou moins. Et puis, je me dis, tiens, c'est ce thème-là, ce sujet-là, tiens, ce dindon, aujourd'hui, ça plaît. Par exemple, le dindon, Ça fait 10 ans que j'avais en tête d'adapter Phédo.
Ah
pas
oui.
forcément le dindon, mais il y avait le fil à la pâte, il y a l'hôtel du libre-échange, il y a le dindon. Mais tout le monde me rayonnait en me disant « Oh, Phédo, quand même, c'est vieillot, t'es sûr ?»
Et puis soudain, non.
Et puis soudain, non. Je rencontre mon coproducteur qui me dit « Ah, bah, moi, j'ai toujours rêvé de faire un Phédo, et puis on se lance là-dedans. » Voilà.
Extraordinaire. Alors, effectivement, cette fois-ci, il s'agit d'un objet cinématographique singulier, un vrai film de genre, comme on n'a plus l'habitude d'en voir, hein. Un peu comme ces comédies délicieuses que Sacha Guitry imaginait pour le cinéma, en fait. Parce que ça part d'un texte de Feydeau, mais on pense aussi à Guitry, cet esprit français, en fait.
Bah oui, complètement français. Surtout, on s'en rend compte à cette époque avec l'émergence positive, au point de vue des mouvements comme MeToo, etc.
Voilà.
Mais c'est vrai que c'est très français, c'est très latin, c'est très européen. C'est un peu moins, peut-être, américain. Il y a quelque chose de plus subtil dans les rapports hommes-femmes, de peut-être plus d'humour et quelque chose de très parisien, très français. En tout
ça remonte à loin, hein, ça remonte à Beaumarchais, tout ça.
On pourrait presque dire Molière, en fait. Vraiment notre état d'esprit. Et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est toujours aussi... percutant, actuel. Après, moi, ma volonté et celle de tous mes acteurs, c'était de faire avant tout un vrai film de cinéma. Donc, je vous dis, ça a été malgré tout un gros travail d'adaptation pour non pas uniquement réduire le texte, mais le rendre accessible, le débarrasser de tout ce qui pouvait paraître un peu empesé, qui est de l'époque de Phédo, pour le théâtre de Phédo, qui s'accepte au théâtre, mais qui est compliqué au cinéma, sur grand écran. Et puis, moi, mon travail, entre guillemets, de réalisateur, c'était d'utiliser tous les outils du cinéma pour dynamiser ce Phédo et en faire un film rythmé où les gens rentrent et ça ne s'arrête pas. Parce que la mécanique de Phédo, quand elle est bien huilée et qu'en plus, elle est servie par de magnifiques acteurs et qu'on essaye en plus d'y intégrer tous les outils de cinéma, on peut avoir quelque chose qui va à une vitesse... ahurissante.
Et c'est le cas. Voilà. Alors, j'imagine que ça vous a amusé de filmer ces personnages féminins. Je rappelle Alice Paul, Camille Lelouch, Laure Calamy, avec tous les attributs de la féminité qui, aujourd'hui, ont presque disparu en 2019. Parce que comme on est dans la France du Général avant mai 68, on se retrouve au milieu de tailleurs fleuris, colliers de perles, les gants, les chapeaux, en fait, tout ce qui envoyait des signaux de séduction pour appâter la gente masculine de l'époque.
Oui, et puis les hommes sont aussi apprêtés, ils sont en costume pour certains. Moi, j'adore cette époque, en fait, moi, j'ai placé le film en 65 dans ma tête, mais c'est toutes ces références de... on peut parler de Vasarely en peinture, de cette folie, mais en même temps, c'est encore un peu structuré.
Toiles de Vasarely, d'ailleurs, dans les vrais appartements où vous avez tourné.
Il y a des inspirations de Vasarely. Je sais pas, du Pierre Paulin, enfin voilà, toutes ces choses qui aujourd'hui existent encore, résonnent encore, nous habitent encore, on ne s'en rend même pas compte dans nos habitats, à quel point ces années-là ont été importantes esthétiquement, culturellement, et en effet, tous mes personnages sont habillés comme dans ce milieu-là, à cette époque-là. Et d'ailleurs, je salue là ma chef costumière Madeleine Fontaine, avec qui j'ai fait Yves Saint-Laurent, avec qui j'ai fait Versailles, qui est un génie. Et voilà.
Vous travaillez chaque fois avec la même costumière ?
Sur ce type de film, entre guillemets, d'époque, oui. Parce que j'ai cette chance qu'elle me suive. Et c'est une immense.
Alors, est-ce que pour les prochains films, comme vous l'avez fait pour Le Dindon, vous répéterez à nouveau en amont du tournage avec tous vos acteurs ?
Tout dépend. Là, je fais des films comme acteur, par exemple, où justement, le réalisateur ne fait absolument pas de répétition. Il veut... parce que ça s'y prête davantage. On est dans un jeu un peu plus naturaliste, où on veut faire profiter de l'instant présent... où ça passe moins par du dialogue écrit et soutenu, un langage soutenu. Celui de Phédo, c'est essentiel. Donc, moi, j'aime bien répéter, j'aime bien au moins faire des lectures en général. Je l'ai fait quasiment sur tous mes films.
Vous nous avez dit que vous étiez en train de tourner un documentaire pour Netflix, mais le prochain sujet de cinéma, vous l'avez déjà trouvé, je l'espère ?
J'ai des pistes, mais non, je n'ai pas encore décidé.
C'est vrai ?
Oui, je suis assez occupé jusqu'à la fin de l'année. Sur ce documentaire et puis comme comédien. Donc je me laisse un tout petit peu. Puis j'ai toujours besoin quand même de sortir mon film pour vraiment me lancer dans une autre aventure. Donc j'attends cette sortie avec impatience pour passer à la suite.
Alors on dit que Frank Capra filmait l'âme des gens. Votre quête à vous au travers du cinéma, c'est de capter quoi ?
Moi, je dirais que ce qui m'a touché la première fois et c'est ce qui me touche encore aujourd'hui, c'est qu'on capte, en tout cas, si ce n'est l'âme, on capte en tout cas des fréquences ses fréquences, elle a, mais puis elle reste. Et elle nous survive, et ça, je trouve ça magique et bouleversant. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire ma vie.
Et c'est forcément mieux que la vie, le cinéma.
En tout cas, c'est très compatible.
Me dit quelqu'un qui a les yeux qui brillent. Merci infiniment, Jalil Lesper. Le Dindon est en salle depuis mercredi avec vraiment un casting 5 étoiles. Il ne faut pas le rater. Je vous souhaite allez, les belles ondes pour tout ce que vous entreprenez en
Alors,
ce moment.
Je prends tout. Et puis, voilà. Merci pour cette interview. C'était formidable. Merci à vous.
À très vite.
C'était Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet revient bien sûr samedi prochain à 15h avec Étienne Daho. Étienne Daho invité à l'occasion de la réédition coffret de luxe de son album Eden, écrit et enregistré à Londres en 1996, et d'une série de concerts à travers la France à partir du 25 octobre, dont deux dates importantes à la Philharmonie de Paris le 11 novembre et le 23 décembre à la salle Pleyel. Europe 1.